Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
On constate 100% de protection contre la survenue des formes graves de maladie et d'hospitalisation.
Un vaccin très prometteur, celui du Britannique AstraZeneca, qui est en prime moins cher et plus facile à stocker. Lueur d'espoir alors qu'Emmanuel Macron s'exprime ce soir pour desserrer la vis du confinement et fixer un cap, au moins d'ici Noël. Dernier arbitrage ce matin en Conseil de défense et encore quelques casse-têtes à résoudre. Une évacuation de migrants très mouvementée hier soir en plein centre de Paris. Gérald Darmanin dénonce des images choquantes et demande un rapport au préfet de police. Dans ce journal, dossier spécial sur la gauche, objectif rassemblement pour les régionales, puis en 2022 par exemple, dans les Hauts-de-France où Xavier Bertrand semble presque imbattable.
À nous d'être suffisamment intelligents, de ne pas être la gauche la plus bête de la région pour tenter de challenger M. Bertrand, qui doit savoir qu'il y a aujourd'hui un peuple de gauche dans cette région.
Et puis aux États-Unis, yes he can, la transition enfin acceptée par Donald Trump. Il donne son feu vert au transfert du pouvoir à Joe Biden.
Juste après ce journal, jusqu'à 500 emplois supprimés en France, Danone rattrapé par la crise du Covid, l'éclairage éco de Nicolas Barré. Le regard international de Vincent Hervouet, un match couperet pour le PSG ce soir en Ligue des Champions, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
20h ce soir, Emmanuel Macron à la télévision, mais aussi sur Europe 1. Allocution une fois encore très attendue, puisque le président doit desserrer l'étau du confinement. Ce matin, Conseil de défense pour mettre au point les derniers ajustements.
Alors le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un secteur obtient des concessions, un autre demande à son tour un allègement des contraintes. Et ainsi de suite. C'est l'effet domino, Louis Dragnel.
Oui, vous voyez, à partir du moment où le gouvernement a envisagé la reprise des messes autour du 1er décembre et que dans le même temps, les commerces non essentiels ont aussi réclamé leur réouverture, eh bien d'autres lieux accueillant du public, proposant exactement les mêmes protocoles sanitaires, ont demandé la même chose. Un conseiller ministériel pose un autre problème autour du kilomètre réglementaire. Comment peut-on autoriser les emplettes de Noël tout en interdisant de faire des balades sans rencontrer personne? Un autre explique également, si on autorise à nouveau les services à domicile, on n'a pas d'autre choix que de rouvrir les salons de coiffure et les instituts de beauté.
Mais ça paraît sans fin, Louis.
Oui, et la même question se pose aussi pour les jauges. Si les commerces non essentiels peuvent rouvrir avec une jauge à une personne pour 8 mètres carrés, eh bien la jauge doit-elle être la même dans les lieux de culte? Elle devrait finalement être fixée à une personne pour 4 mètres carrés. Et aussi, pourquoi donc alors ne pas rouvrir les cinémas, les théâtres et les salles de spectacle avec cette même jauge? En vérité, ces questions illustrent aussi une inconnue résumée par un ministre. Au fond, on ne sait pas vraiment si ce plan et ces dates sont bonnes face à l'évolution de la situation sanitaire. Et de conclure, si nous n'avions pas été juste avant Noël, on serait sans doute resté confiné bien plus longtemps.
Louis de Ragnel, et pour les stations de ski, pas de réponse avant une dizaine de jours.
Alors que le confinement doit progressivement s'alléger, les bonnes nouvelles se succèdent. Du côté des vaccins, hier, le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford ont annoncé leurs premiers résultats.
Oui, une efficacité de 70% en moyenne, 90% dans certains cas. Pas facile d'y voir clair avec les deux autres candidats vaccins, Pfizer, BioNTech et Moderna. Ce que vous nous dites ce matin, Victor Delorme, c'est que celui d'AstraZeneca n'est pas moins efficace que les deux autres.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait deux groupes dans l'essai clinique d'AstraZeneca. Un premier a reçu une demi-dose, puis une dose un mois plus tard. Dans ce panel, 9 personnes sur 10 ont été immunisées contre le Covid. En revanche, le deuxième groupe a reçu 2 doses en tout avec un mois d'écart. Et là, l'efficacité du vaccin chute à 62%. Pour Morgan Bumsell, spécialiste des vaccins au CNRS, AstraZeneca va simplement resserrer la fin de son essai sur le groupe qui a obtenu des meilleurs résultats.
Le protocole avec une dose plus importante va être écarté et de ce fait, ils vont finir par se concentrer uniquement sur la dose optimale qui donne 90% aujourd'hui.
Selon elle, les 3 candidats vaccins, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, se valent actuellement, avec peut-être même un léger avantage à AstraZeneca, car selon les résultats intermédiaires, aucun cas de Covid sévère n'a été recensé parmi les personnes vaccinées qui ont déclaré la maladie. Enfin, dernier avantage, ce vaccin utilise une technologie plus traditionnelle que ses deux concurrents, ce qui le rend moins coûteux et beaucoup plus facile à stocker.
Victor Dolande, aux États-Unis, les autorités espèrent commencer à vacciner à la mi-décembre. 20 millions de personnes à risque dans un premier temps, puis 25 à 30 millions par mois.
Les États-Unis, où la transition à la tête du pouvoir peut enfin commencer, Donald Trump a donné son feu vert. Et la responsable de l'administration a écrit à Joe Biden qu'au vu des résultats, elle le considérait comme le futur président.
Oui, Benoît Clerc, vous êtes aux États-Unis pour Europe 1. La situation s'est donc enfin débloquée.
Oui, mais il aura bien quand même fallu attendre 20 jours, c'est du jamais vu dans l'histoire des élections américaines, pour qu'Emily Murphy, cette fonctionnaire qui avait la clé du coffre, accepte de signer deux chèques pour un peu moins de 4 millions de dollars qu'elle vient d'envoyer à l'équipe de Joe Biden qui va ainsi pouvoir débuter la transition. Elle n'avait pas beaucoup d'autres choix car les États où il y avait des litiges ont continué de certifier les résultats, un à un, et cette nuit encore c'est le Michigan qui a revalidé le recomptage des voix en faveur du candidat démocrate. La Pennsylvanie devrait en faire autant dans la journée de ce mardi. Ajoutez à cela que plus d'une trentaine de procédures judiciaires de contestation déposées par les avocats de Donald Trump ont toutes fait long feu. Les juges les ont retoquées à 100% faute de preuves matérielles. C'est donc un double camouflet pour Donald Trump, même s'il a tweeté cette nuit qu'il continuerait de contester les résultats. Dans une lettre ouverte, plus de 150 experts républicains et 160 chefs de grandes entreprises américaines lui ont demandé de reconnaître sa défaite, car il y a urgence avec l'explosion du coronavirus d'une part et l'économie en panne d'autre part. Il reste 57 jours avant l'investiture, le 20 janvier.
Benoît Clerc, aux États-Unis pour Europe 1, Joe Biden prépare son entrée à la Maison-Blanche avec plusieurs personnalités qui ont déjà travaillé avec Barack Obama, comme Anthony Blinken, futur chef de la diplomatie américaine. Il parle parfaitement notre langue, vous l'entendrez d'ailleurs dans le journal de 8h.
7h06 sur Europe 1, ambiance tendue. Hier soir, en plein cœur de Paris, place de la République, plusieurs centaines de migrants, des Afghans pour la plupart, ont monté un campement.
Oui, ils erraient dans Paris depuis l'évacuation du camp de Saint-Denis la semaine dernière. Très rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues sans ménagement, avec usage de gaz lacrymogène. Cette nuit, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a évoqué sur Twitter des images choquantes. Il demande un rapport au préfet de police. À quelles images il fait référence, Jérôme Lacroix ?
Une tente saisie, soulevée par des policiers alors qu'un migrant se trouve à l'intérieur. L'homme chute sur le sol. La scène a choqué les associations sur place. Un migrant fauché d'un croc en jambe alors qu'il tente de fuir la violence de l'évacuation et qui tombe en pleine course. Il y a aussi ce coup de pied asséné à un manifestant au niveau du bas-ventre par un membre des forces de l'ordre. Le même policier, semble-t-il, au visage à demi masqué mais reconnaissable à une coupe de cheveux particulière, est impliqué dans la mise au sol de Rémi Buisine, journaliste du média en ligne Brut.
Ça a dérapé totalement, les policiers sont intervenus, ils ont arraché les tentes. Nous, en tant que journalistes, on a été entravés à de nombreuses reprises, on a reçu des coups, on a été bousculés, on n'a pas arrêté de dire qu'on était de la presse, mais ça changeait rien.
Recule !
Et depuis hier soir, dans le contexte de la loi sur la sécurité globale, une photo, un portrait d'un policier est publié sur les réseaux sociaux. Pas d'appel formel à lui nuire, pas de révélation d'identité, mais il y est notamment qualifié de milicien.
Et le rapport devrait être remis à Gérald Darmanin à la mi-journée. Merci Jérôme Lacroix.
La gauche est-elle capable de gagner la présidentielle de 2022 ? Une question que nous avons choisi de poser ce matin sur Europe 1. Il y a quelques mois, la réponse aurait semblé quasi évidente. Non, sauf que la situation a évolué. Claudia Bertram, bonjour.
Bonjour.
On peut dire que la gauche attire de nouveau ?
Écoutez, en tout cas, il y a des mécaniques qui s'enclenchent. Vous avez l'initiative de l'ancien macroniste issu du PS, Aurélien Taché, et d'une dizaine d'autres députés qui ont quitté les rangs de La République En Marche et qui, aujourd'hui, veulent, je cite, « fonder un pôle de gauche humaniste ». L'avocat Jean-Pierre Mignard, un proche de François Hollande qui a soutenu Emmanuel Macron en 2017, explique cette dynamique.
Je pensais que Emmanuel Macron devait se lier à des méthodes de gouvernement, de gestion de la société, de coparticipation de la société qui permettaient non pas d'éviter les problèmes, mais en tout cas d'adopter des formules de sortie des problèmes et de solutions qui auraient évité bien des déchirures qu'on a vues notamment à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Tout ça rebute évidemment et en tout cas fait qu'à tout le monde on ne s'y reconnaît pas.
Dans la sphère socialiste, Claudia, ça bouge aussi. Ce soir se tient d'ailleurs un conseil national du PS.
Oui, et le patron des socialistes, Olivier Faure, veut entamer une refondation, adapter le logiciel du PS aux enjeux du XXIe siècle et mettre le parti en ordre de marche pour la présidentielle. Et il n'est d'ailleurs pas le seul à y réfléchir. Il y a l'ancien numéro 1 du PS, Jean-Christophe Cambadélis, apparatchik des apparatchiks, qui veut tirer un trait sur le projet de la gauche des années 80-90. Il y a aussi Laurent Geoffrin, l'ancien directeur de Libération, est proche de François Hollande, qui veut agiter le débat d'idées. Il y a de l'émulation, mais l'enjeu, c'est d'éviter une gauche éparpillée façon puzzle.
Alors, c'est loin d'être simple, Claudia, on le comprend. Beaucoup de noms circulent déjà et des personnalités reviennent sur le devant de la scène.
Oui, François Hollande, Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, Jean-Christophe Cambadélis, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, tous laissent planer l'idée d'une candidature. De leur côté, les Verts sont dans les starting blocks, portés par leur succès au municipal. Ils veulent être les leaders de la gauche. Et Yannick Jadot, qui sera tout à l'heure l'invité de Sonia Mabrouk, Éric Piolle, le maire de Grenoble, et l'ancienne dirigeante de ELV, Sandrine Rousseau, se sont déjà positionnés. Pour le moment, le seul officiellement candidat à la présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Vous le voyez, ça fait beaucoup d'hypothèses, beaucoup de monde. Et le défi, ça va être l'union derrière un candidat. Problème, comme l'a dit un responsable socialiste un peu dépité, tout le monde est pour l'union dès lors que c'est derrière lui.
En clair, si la gauche veut éviter de redéclencher la machine à perdre et d'être absente au second tour, elle doit s'unir. Claudia Bertram, vous restez avec nous. Nous partons pour les Hauts-de-France.
Oui, selon le sondage IFOP qu'Europe 1 vous dévoile ce matin avec la tribune, Xavier Bertrand, l'actuel président de région, l'emporterait, quels que soient ses adversaires. Et donc un rassemblement de la gauche serait la seule condition pour faire le poids. Écoutez le reportage de Lionel Gougelot à Lille.
Nous devons avoir l'objectif rassemblé de faire plus de 20%. C'est à partir de 20% que nous pourrons peser sur les événements du second tour.
Et c'est ce rassemblement des gauches, défendu par le sénateur socialiste lillois Patrick Kanner, qui permettrait selon lui d'écrire un autre scénario que celui annoncé d'un nouveau duel entre Xavier Bertrand et le Rassemblement National.
Monsieur Bertrand sera sûrement en tête. À nous d'être suffisamment intelligents, de ne pas être la gauche la plus bête de la région pour tenter de challenger monsieur Bertrand, qui doit savoir qu'il y a aujourd'hui un peuple de gauche dans cette région.
Un peuple de gauche, mais plusieurs candidats tête de liste chez les Verts, au Parti communiste et chez la France insoumise. La bonne nouvelle, c'est que les discussions sur un projet commun se poursuivent, confie un élu, pour une éventuelle alliance que le communiste Fabien Roussel espère toujours.
Il y a une prise de conscience que personne ne gagnera tout seul et qu'il y a une obligation à se mettre d'accord. Il ne faut pas faire de blocage sur les têtes de liste, il faut réussir aussi à avancer sur les idées. Je ne faisais pas d'ailleurs de ma candidature un préalable à ce rassemblement et c'est dans cet état d'esprit que j'avance. Et nous continuons de discuter.
Une bonne volonté affichée, mais un rassemblement loin d'être acquis et le report du scrutin en juin prochain n'incite pas à la précipitation. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Alors Claudia Bertram, vous êtes toujours avec nous, que ce soit dans les Hauts-de-France ou ailleurs dans le pays, l'union ce n'est pas si simple.
Oui, si ça a pu fonctionner au niveau local comme aux dernières municipales, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu au niveau national. En fait, les régionales pour la gauche vont servir de primaire à la présidentielle à condition que les forces politiques acceptent les rapports de force qui en sortiront.
Merci Claudia Bertram, vous le disiez, Yannick Jadot, le député Europe Écologie Les Verts, député européen, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin. Du foot à présent avec deux clubs français en Ligue des Champions ce soir.
Oui, le PSG qui a perdu 2 matchs en 3 rencontres, reçoit les Allemands de Leipzig. Les Parisiens doivent absolument gagner pour garder leur chance de qualification pour les 8e de finale. Gros enjeu aussi pour les Rennais, derniers de leur groupe. Ils reçoivent Chelsea, l'un des favoris, un peu plus tôt à 19h. Match à suivre en fil rouge et soirée spéciale sur Europe 1 à 21h autour de Lionel Rousseau.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.